Chapitre 7. Une fille de marchand à Terrilville.
Reste tranquille. Ça fait mal, protesta Malta.
Elle leva la main pour toucher les cheveux que sa mère enroulait en torsade brillante. Celle-ci repoussa sa main.
Être femme, ça fait mal la plupart du temps,
dit Kefria à sa fille avec pragmatisme.
C'est ce que tu voulais. Habitue-toi.
Elle tira la masse de cheveux noirs puis remit en place quelques mèches rebelles.
« Je t'en prie, ne lui bourre pas le crâne de sottise pareille !»
dit Ronica irritée.
« Il ne manquerait plus qu'elle traîne partout un air de martyr simplement parce qu'elle est une femme !»
La grand-mère de Malta reposa la poignée de rubans qu'elle était en train de trier et se mit à arpenter la pièce avec agitation.
« Cela ne me dit rien qui vaille !» déclara-t-elle soudain.
Quoi ?
Qu'on apprête Malta pour la visite de son premier soupirant ?
Il y avait dans la voix de Kefria tout à la fois chaleur maternelle et perplexité.
Malta fronça les sourcils. Sa mère avait d'abord refusé d'accepter qu'on la traitât en femme. Il y avait quelques semaines encore, elle avait décrété que sa fille était beaucoup trop jeune pour être courtisée. Approuvait-elle maintenant ?
Malta chercha à apercevoir le visage de sa mère dans le miroir, mais Kefria baissa la tête, occupée à la coiffure. La chambre était claire et spacieuse, embaumée par les jacinthes placées dans de petits vases. Le soleil coulait à flots des hautes fenêtres. C'était une délicieuse après-midi de printemps, une journée qui aurait dû déborder de promesses. Mais Malta sentait peser sur elle l'apathie des deux femmes. Point de bavardage enjoué tandis qu'elle l'apprêtait pour la rencontre avec son premier prétendant. La maison paraissait croupir dans le deuil, comme si, depuis la mort de son grand-père au printemps dernier, une éternelle désolation s'était abattue sur elle. Sur la table devant Malta, il y avait de petits pots de fard, de crème et de parfum. Aucun qui fût neuf. C'était ceux de sa mère.
Ainsi, elle pensait qu'elle ne méritait pas mieux que cela. Elle en était ulcérée. Les fards ne provenaient même pas du marché. Ils avaient été préparés à la maison, dans la cuisine, concoctés comme un brouet à partir de baies, de fleurs, de crème et de suif. Sa mère et sa grand-mère étaient d'un démodé, c'était décourageant. Comment voulait-elle que la bonne société de Terrilville les respecte si elle vivait comme des pauvresses ?
Elle parlait par-dessus sa tête comme si elle était un bébé incapable de comprendre.
« Non, je me suis fait une raison, »
maugréa sa grand-mère qui paraissait plus irritée que résignée.
« Cela ne me dit rien qui vaille qu'on n'ait aucune nouvelle de Kyle et de la Vivacia. C'est ce qui me tracasse. »
Kefria gardait une prudente neutralité quand elle parlait de son mari et du navire familial.
« Les vents de printemps sont parfois capricieux. Il sera à la maison dans quelques jours, sans doute, s'il décide de s'arrêter à Terrilville. Il peut aussi se rendre directement en Calcède pour vendre sa cargaison tant qu'elle est encore en bon état. »« Tu veux dire, tant que les esclaves sont encore vivants et vendables ?» fit observer Ronica, implacable.
Elle s'était toujours élevée contre l'utilisation du navire comme transport d'esclaves. Elle se déclarait opposée par principe à l'esclavage, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une esclave chez elle. Elle avait expliqué que ce serait nuisible à la vive nef qui ne pouvait se charger des funestes émotions émanant d'une semblable cargaison. Vivacia ne s'était éveillée que peu de temps avant d'entreprendre ce voyage. Tout le monde disait que les vives nefs, les jeunes particulièrement, étaient très sensibles aux sentiments de ceux qui vivaient à bord. Malta en doutait.
Toutes ces histoires de vive-nef lui paraissaient ineptes. Pour autant qu'elle ait pu le constater, la possession de ce navire n'avait rapporté à sa famille que dettes et soucis. Il n'était que de voir sa situation. Après avoir supplié des mois durant qu'on l'autorisât à s'habiller et à sortir comme une jeune femme, elle avait vu sa famille lui céder enfin. Et pourquoi ? Non qu'on eût reconnu sa requête comme raisonnable, non. Mais un contrat absurde stipulait que si sa grand-mère ne pouvait acquitter les échéances de la traite pour la vive nef, un des enfants de la famille devait être donné en échange de l'or au désert des pluies. L'indignation devant l'injustice de l'affaire faisait surface et l'étouffait. La voilà, elle, jeune, ravissante, fraîche. Qui serait son premier prétendant? Un jeune et beau marchand, comme Serwyn Trell? Un poète mélancolique, comme Crillon Trentor? Non. Malta Westreet, elle, aurait droit à un vieux marchand des pluies tout verruqueux, un homme si horriblement défiguré qu'il était obligé de porter un voile s'il souhaitait venir à Terrylville. Sa mère et sa grand-mère s'en souciaient-elles? Avait-elle jamais songé à ce que cela voudrait dire, pour elle, de se voir imposer un homme pareil? Oh non, non, pas elle. Elles étaient bien trop occupées à se tracasser pour le navire, pour leur petit trésor Yémen ou pour tante Althea. Malta comptait pour du beurre. Elle l'aidait à s'habiller, la coiffait, sans faire pour autant attention à elle. Alors que c'était peut-être le jour le plus important de sa vie, elles étaient là à se chamailler sur l'esclavage. « Fais son possible pour la famille, » disait sa mère d'une voix basse et égale. « Tu dois lui reconnaître au moins cela. Kyle peut manquer de délicatesse en matière de sentiments, je l'admets. Il m'a heurté plus d'une fois. Néanmoins, il n'est ni méchant ni égoïste. Je l'ai toujours vu agir dans notre intérêt à tous. » Malta était un peu surprise d'entendre sa mère défendre son père. Il s'était violemment querellé avant le départ, et Kefria depuis lors avait peu parlé de lui. Peut-être, à sa manière vieux jeu et pot au feu, gardait-elle de l'affection pour son mari. Malta avait toujours plaint son père. Quel gâchis! C'était une honte! Un si bel homme! Un si vaillant capitaine, marié à une petite femme si effacée qui ne s'intéressait ni au monde ni à la mode. Il aurait mérité une femme élégante, qui reçoit magistralement et attire des prétendants convenables pour leur fille. Malta estimait qu'elle aussi aurait mérité une mère comme celle-là. Une nouvelle idée la remplit soudain d'inquiétude. « Que comptes-tu mettre aujourd'hui ? » demanda-t-elle. « Ce que j'ai sur moi ?» répondit Kefria laconiquement en ajoutant « Je ne veux plus un mot là-dessus. C'est toi que Reine vient voir, pas moi. » Elle conclut un ton plus bas, presque à contre-cœur. « Tes cheveux brillent comme la nuit. Je doute qu'il remarque qui que ce soit d'autre. » Malta ne se laissa pas distraire par ce compliment, plutôt rare. La simple robe de laine bleue que portait sa mère datait d'au moins 3 ans. On en avait pris soin, mais si elle ne montrait pas d'usure, elle était sobre et fade. « Pourrais-tu au moins te coiffer et mettre des bijoux ?» supplia-t-elle, puis elle ajouta, au bord du désespoir, « Tu me demandes toujours de m'habiller et de me conduire convenablement quand je sors avec toi pour les affaires marchandes. Grand-mère et toi, ne voulez-vous pas faire de même pour moi ?» Elle se détourna du miroir pour leur faire face. Elles paraissaient surprises toutes les deux. « Reine Houprous est peut-être un fils cadet ?» Mais il est tout de même membre d'une des familles les plus fortunées et les plus influentes du désert des pluies. Vous me l'avez dit vous-même. Ne devrions-nous pas nous vêtir comme si nous recevions un hôte d'honneur, même si vous espérez secrètement qu'il ne me trouvera pas attirante et qu'il s'en ira ? Demanda-t-elle, en ajoutant à voix basse. Nous nous devons à nous-mêmes de garder au moins un peu d'amour-propre, non ? Oh, Malta ! Soupira sa mère. « Et moi, je crois que l'enfant a raison, » dit soudain sa grand-mère. La petite femme sombre, engoncée dans ses robes de deuil, se redressa tout à coup. « Ou plutôt, je sais qu'elle a raison. Nous avons eu toutes les deux une vue étroite de la situation. Que nous accueillions favorablement ou non la démarche de Reine n'est pas la question. Nous lui avons donné la permission de faire sa cour. Les Houprous détiennent la reconnaissance de dette de la Vivacia. Notre contrat est entre leurs mains. Non seulement nous devrions les traiter avec la même courtoisie que nous avons montrée aux Festrés, mais nous devrions nous présenter sous le meilleur jour. » Ronica fit le tour de la chambre à pas rapide, en énumérant sur ses doigts ses sujets de préoccupation. « Nous avons dressé une jolie table, fait un nettoyage de printemps. Rack peut servir à table, elle le fait bien. Je regrette que Nana ne soit plus avec nous, mais c'était l'occasion ou jamais pour elle de la laisser partir. Tu crois que je devrais envoyer Rack chez Davad Restart pour lui demander de nous prêter d'autres serviteurs ?»«
On pourrait ?» commença Kefria d'une voix hésitante.
« Oh, je vous en prie, non !»
intervint Malta.
« Les serviteurs de Davad sont des horreurs, sans manières et impertinents. Ce serait mieux sans eux. Je crois que nous devrions présenter notre maison telle qu'elle est, plutôt qu'essayer de faire illusion avec des domestiques mal formés. À votre avis, où se trouve la vraie distinction ? Dans une maison aux ressources bornées qui reçoit du mieux possible dans la mesure de ses moyens, ou dans celle qui emprunte des domestiques négligents ?»
Elle fut ravie de constater la surprise de sa mère et de sa grand-mère. Kefria sourit avec fierté en disant « Cet enfant a du bon sens. » « Malta, je suis sûre que tu as compris l'essentiel. Cela me fait plaisir de t'entendre parler ainsi. »
Grand-mère approuva avec plus de circonspection. Elle fit la moue et hocha brièvement la tête.
Malta se tourna et se mit à étudier sa coiffure dans le miroir. « Pas mal. » Elle jeta un nouveau coup d'œil au reflet de sa grand-mère qui l'examinait toujours attentivement. Ronica Vestrit avait sûrement de la peine à admettre qu'on fût aussi intelligente qu'elle. C'était cela. Elle était jalouse que Malta fût capable de considérer les choses avec autant de clarté qu'elle, avec davantage de clarté même. Kefria, cependant, avait été fière de sa fille. Grâce à son intelligence, elle pouvait rallier sa mère à sa cause. Elle n'y avait jamais songé. Elle fut prise d'une inspiration soudaine.
« Merci, mère. J'aime beaucoup la façon dont tu as arrangé mes cheveux. Maintenant, laisse-moi te coiffer à mon tour. Viens, assieds-toi. »
Elle se leva avec grâce et attira sa mère stupéfaite vers le siège, devant le miroir. Elle retira les longues épingles et les cheveux bruns de Kefria cascadèrent sur ses épaules.
« Tu te coiffes comme une vieille dame mal fagotée. » dit-elle ingénument.
Elle n'ajouta pas qu'il en était de même pour sa grand-mère. Elle se pencha, joue à joue avec sa mère, croisa ses yeux dans le miroir.
« Laisse-moi y piquer des fleurs, que je fixerai avec tes épingles en perles. C'est le printemps, tu sais. Il est temps de fêter le renouveau de la vie. »
Malta leva la brosse aux manches d'argent et la passa dans les cheveux de sa mère. Elle inclina la tête pour lui sourire dans le miroir.
Si l'on ne peut pas se permettre d'acheter de nouvelles toilettes avant le retour de papa, on pourrait au moins les égayer avec des broderies. Je suis sûre que cela lui plairait. D'ailleurs, il est temps que j'apprenne ton point de bouton de rose. Si tu me le montrais après la visite de Rain. »
Ronica Vestrit constata d'un œil sceptique la gentillesse subite de sa petite fille. Elle se sentait diminuée par son propre pessimisme, mais n'osait pas l'écarter. Elle maudissait les circonstances qui avaient déposé la réputation et les finances de sa famille dans les mains malhabiles de cet écervelé. Plus effrayant encore, ses mains malhabiles étaient avides, cupides, et la sottise de Malta était alimentée par la ruse. Si la jeune fille s'était seulement appliquée avec enthousiasme à agir vraiment pour le bien de sa famille et pour elle-même, elle aurait fait la fierté des Vestrit. Mais, en l'état actuel des choses, elle n'était bonne qu'à leur attirer des ennuis. En se retirant en silence de la pièce où la fille tressait les cheveux de la mère, Ronica songea avec amertume que si la chance lui souriait, Rain Hoprous les débarrasserait peut-être de Malta. Quelle paix ce serait de ne plus avoir dans la maison cette jeune intrigante! Puis elle imagina sa petite fille devenue la bru de Yanni Hoprous, et elle grimaça. Non, Malta était le souci des Vestrit. Il valait mieux la garder à la maison jusqu'à ce qu'elle ait appris à se conduire comme il convenait à son rang. Parfois, Ronica pensait que le meilleur moyen de la corriger eût été de la fouetter. Elle désirait retrouver le calme relatif de ses appartements. Comme tous les ans à l'arrivée du printemps,
Ronika avait fait nettoyer et aérer la pièce. Rien n'y faisait. L'odeur de la maladie lui revenait à la mémoire. La lumière qui se déversait par les hautes fenêtres semblait fausse. Les draps frais sur le lit paraissaient d'un blanc glacial, peu engageant. Elle s'assit à sa coiffeuse et s'examina dans le miroir. Malta avait raison. Elle était devenue une vieille femme mal fagotée. Elle ne s'était jamais considérée comme belle, mais quand Efron était en vie, elle prenait soin d'elle-même. Depuis la mort de son mari, elle avait oublié. Elle avait cessé tout à fait d'être femme. Ses rides s'étaient creusées, sa gorge s'était affaissée. Les quelques pots de crème sur sa coiffeuse étaient tout poussiéreux. Lorsqu'elle ouvrit son coffret à bijoux, le contenu lui en parut à la fois familier et étranger. Depuis combien de temps ne s'était-elle pas souciée de son apparence? Elle inspira profondément. Efron. Ce fut tout. Elle avait simplement prononcé son nom à voix haute. À la fois appel, excuse et adieu. Puis elle leva les bras pour détacher ses cheveux. Elle les secoua et fronça les sourcils en constatant qu'ils s'étaient raréfiés. Elle porta les mains à son visage, tâta sa peau sèche et parcheminée, essaya de lisser les rides autour de sa bouche. Elle secoua la tête puis se pencha pour chasser d'un souffle la poussière sur les peaux. Elle ouvrit le premier. Elle achevait de se parfumer quand Rack frappa un coup hésitant à la porte.
« Entrez !»
fit Ronika négligemment. Depuis le départ de Nana, Rack était la seule servante de cette maison jadis si pleine d'animation. À la vue de l'esclave, Ronika devina aussitôt la raison de sa venue. Seule une visite de Davad Restart allumait dans le regard de Rack cette haine sourde. L'esclave tenait le marchand pour responsable de la mort de son fils à bord du transport d'esclaves dont il était propriétaire. La moindre allusion à Davad provoquait ce regard chez elle. C'était les seuls moments où la jeune femme semblait vraiment vivante. Ronika eut beau soupirer et implorer
« S'il vous plaît, non !»
Elle savait qu'il était déjà au salon.
« Excusez-moi, madame !» dit Rack d'une voix atone. « C'est le marchand Restart. Il insiste pour vous voir. »«
Très bien !»
répondit Ronika avec un soupir de résignation. Elle se leva de sa coiffeuse.
« Je descends dès que je serai habillée. Non, inutile d'aller le lui dire. S'il ne se donne pas la peine d'envoyer un garçon de course pour prévenir de sa visite, il peut bien attendre que je sois prête. Aidez-moi, s'il vous plaît. »
Elle tâchait de plaisanter sur Davad, mais Rack gardait les lèvres serrées. Il avait confié l'esclave au Vestrit pendant l'agonie d'Efron, officiellement, pour aider. Mais Ronika soupçonnait que c'était pour se débarrasser d'elle et de son regard meurtrier. Elle présumait que l'esclave appartenait toujours au marchand, conformément à la loi de Jamelia. Terrilville ne reconnaissait pas l'esclavage. Ici, elle était pudiquement appelée « servante sous contrat ». Il y avait un grand nombre de « serviteurs sous contrat » ces derniers temps, à Terrilville. Ronika la traitait comme une domestique ordinaire. Elle prit son temps pour choisir et se décida enfin pour une robe en lin vert pâle. Voici longtemps qu'elle n'avait porté autre chose qu'une informe tunique d'intérieur. Elle se sentit singulièrement dénudée, même quand les jupes furent ajustées à la taille et le casaquin lacé dans le dos. Elle s'arrêta pour jeter un dernier coup d'œil à son reflet dans le miroir. Allons, soit. Elle n'était pas ravissante, elle n'était pas jeune. Pourtant, elle avait de nouveau l'allure d'une grande dame marchande, à la fois soignée et digne. Elle fit une pause devant son coffret à bijoux. Et d'un geste plein de témérité, elle attacha des perles à son cou et à ses oreilles. Voilà. Maintenant, que cette petite peste aille insinuer qu'elle était une vieille mal fagotée. En se retournant, elle surprit Rack qui la regardait les yeux écarquillés.
Elle se sentit presque flattée de l'étonnement exprimé par la servante.
« Je vais voir Davad maintenant. Voudrais-tu nous apporter du café et des gâteaux de la cuisine, s'il te plaît ? Pas de raffinement. Je n'ai pas envie de l'encourager à s'incruster. »«
Bien, madame. »
fit Rak en esquissant une révérence et elle s'enfuit en silence. Dans un bruissement de jupe, Ronika traversa le hall pour se rendre au salon. Les perles étaient fraîches à son cou. Étrange comme un changement de tenue et quelques soins lui donnaient l'impression d'être une autre. Son chagrin était toujours là, aussi profond, ainsi que sa colère envers tous les soucis qu'il avait assaillis depuis la mort d'Ephron. Tout l'hiver, elle s'était évertuée à parer les coups du sort à mesure qu'il survenait. Découvrir qu'elle s'était trompée en mettant sa confiance dans son gendre avait été atterrant. L'avidité de Kyle avait chassé Althea, et sa brutale autorité n'avait fait que paralyser Kefria. Constater en outre que Malta paraissait prendre le même chemin que son père était tout aussi troublant. Quelques mois auparavant, Kefria avait promis de prendre sa fille en main et de la changer. Ronika eut un petit reniflement de dédain. Jusqu'ici, le seul changement qu'elle percevait chez Malta, c'était sa duplicité chaque jour plus flagrante. Elle marqua une pause à l'entrée du salon et chassa ses pensées. Par un effort de volonté, elle dérida son front et plaqua une expression agréable sur son visage. Elle redressa le dos et les épaules, puis ouvrit la porte et pénétra dans la pièce avec un « Bonjour, Davad. Quelle surprise que vous veniez ainsi nous rendre visite !» Il lui tournait le dos. Il avait pris un livre sur l'étagère et l'examinait attentivement près de la fenêtre. Avec son large dos rond boudiné dans une veste bleu foncé, il lui fit penser à un cafard. Il referma le livre et dit en se retournant « Ce n'est pas surprenant, c'est impoli. Même le gaffeur insociable que je suis sait qu'il aurait dû vous demander si vous aviez le temps de le recevoir. Mais vous m'auriez répondu non et il fallait que... Ronika, vous êtes étonnante. » Il la scruta de haut en bas, avec une certaine familiarité, et son regard la fit subitement rougir. Un sourire s'épanouit sur la figure replète et vermeille du marchand. Je suis tellement habitué à vous voir habillé tristement, j'en avais oublié à quoi vous ressembliez vraiment. Je me rappelle cette robe. Elle n'est pas toute neuve, n'est-ce pas? Ne la portiez-vous pas à une réception où vous annonciez le mariage de Kefria avec Kyle? Elle vous rajeunit de 10 ans. Vous devez être fier de pouvoir encore rentrer dedans. » Ronika secoua la tête en direction du vieil ami de la famille.
« Davad Restart, vous et vous seul êtes capable de gâcher tant de compliments en si peu de phrases. »
Il la regarda les yeux ronds, complètement désarçonnés.
Comme c'était souvent le cas, il n'avait pas la moindre conscience de son manque de tact. Elle s'approcha d'un divan et s'assit.
« Venez près de moi, » proposa-t-elle. « J'ai demandé à Rak d'apporter du café et des gâteaux, mais je vous préviens, je n'ai que quelques instants à vous accorder. » « Nous recevons Rein Hoprous cet après-midi. Il vient rendre sa première visite à Malta et j'ai encore beaucoup à faire. »«
Je sais, » avoua-t-il sans détour. « Terrilville ne parle que de cela. C'est un peu inhabituel, n'est-ce pas, d'autoriser un homme à faire sa cour avant que la jeune fille ait été présentée officiellement. Elle se croit certainement prête, n'est-ce pas ?» Après son escapade, l'hiver dernier, au bal, eh bien, je ne vous reproche pas de chercher à la marier au plus vite. Plus tôt elle s'agira, mieux ce sera pour Terrilville. »
Il s'interrompit et s'éclaircit la gorge. Pour la première fois, il sembla un peu embarrassé.
« À vrai dire, Ronika, c'est la raison de ma visite. » « Je vais vous demander un très grand service, je le crains. »« Vous désirez me demander un service et
Cela a un rapport avec la visite de Rain ?
Ronica était à la fois perplexe et mal à l'aise.
Oui, c'est simple. Invitez-moi aussi, je vous en prie.
Elle contint son ébahissement. L'entrée de Rack avec le plateau de café lui épargna de répondre immédiatement. Elle congédia aussitôt la servante, il était inutile de la forcer à servir un homme qu'elle haïssait. Elle versa elle-même le café, ce qui lui donna le temps de réfléchir. Davad la devança alors qu'elle allait formuler un gracieux refus.
« Je sais que cela ne se fait pas, mais j'ai pensé à un moyen de contourner la difficulté. »
Ronica décida de ne pas mâcher ses mots.
« Davad, je n'ai aucune envie de chercher le moyen de contourner une inconvenance. La famille Ruprous est puissante. Je ne puis me permettre d'offenser quiconque à Terrylville en ce moment, encore moins le fils de cette famille-là. Vous ne m'avez pas dit pourquoi vous désiriez être là quand nous le recevrons. Traditionnellement, seule la famille de la jeune fille est présente quand le jeune homme fait sa première visite, afin qu'il se sente plus à l'aise, vous comprenez ?
Je sais, je sais. Mais étant donné qu'Ephron est mort et que le père de Malta est en mer, je pensais que vous pourriez me présenter comme un vieil ami qui tient lieu de... Enfin, qui serait une sorte de protecteur en l'absence des hommes de la famille.
La voix de Davad s'éteignit devant l'expression de Ronica. Elle répondit d'une voix basse et contenue.
« Davad, vous savez très bien que jamais je n'ai demandé à un homme de me protéger. Quand les filles étaient petites et qu'Ephron était en mer, je n'ai jamais fait appel à ses amis pour traiter ses affaires, ni pour régler les désagréments qui survenaient en son absence. J'ai fait front. Tout le monde le sait à Terrylville, je suis ainsi. À présent que je suis seul pour de bon, vais-je trembler et me pâmer et me cacher derrière vous ? Je ne crois pas. Rain Ruprous vient aujourd'hui pour rencontrer la famille de la jeune fille qu'il désire épouser. Il nous verra tels que nous sommes. »
Alors que Ronica reprenait son souffle après ce discours, Davad se hâta de répondre.
« C'est pour moi. Pour mon profit, je veux dire.
Je serai honnête avec vous. »
Vous n'en tirerez aucun avantage, je l'admets volontiers, et ma présence peut même vous embarrasser quelque peu.
Ça, c'est.
Je ne suis plus reçu dans certaines familles de Terrylville. Je suis bien conscient d'être un fâcheux en société. Au début, c'était parce que j'étais maladroit. Bon, les mondanités n'ont jamais été mon fort. Dorille, elle, faisait toujours attention à ces choses-là. Après sa mort, beaucoup de gens ont continué à me traiter gentiment, en souvenir d'elle, je pense. Mais au fil des années, les marchands qui me saluaient en amis se sont raréfiés. J'ai dû les offenser sans le vouloir, je présume. Aujourd'hui, de tous les marchands de la ville, vous êtes la seule que j'ose encore appeler amie.
Il s'interrompit et poussa un lourd soupir.
Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je sais que je dois retisser mes alliances. Si je pouvais engager des rapports commerciaux avec les marchands du désert des pluies, ce serait l'occasion. Je sais qu'on désapprouve généralement ma politique. On dit que je rampe devant les nouveaux marchands, que je trempe dans le scandale de l'esclavage, que j'ai trahi les marchands de Terrylville en négociant avec leurs concurrents. Mais vous savez bien que je n'agis ainsi que pour survivre. Qu'ai-je d'autre ? Regardez-moi. Je n'ai personne. Je ne puis compter que sur mon astuce. Pas de femme pour me réconforter. Pas d'enfant qui hériterait de mes biens. Mes efforts ont pour seul but de m'assurer un revenu convenable pour mes vieux jours. Après, tout est fini.
Il observa un silence pathétique, puis acheva dans un filet de voix.
Ma lignée s'éteint avec moi.
Ronica avait fermé les yeux au milieu de cette lamentation. Quand Davad poussa un nouveau soupir, elle les rouvrit.
Davad,
commença-t-elle sur le ton de la réprimande,
vous devriez avoir honte de me manipuler ainsi. Je me refuse à vous plaindre, comme je me refuse à m'apitoyer sur mon sort. Nous avons nous-mêmes travaillé à notre ruine. Vous connaissez les sources de vos soucis. Vous venez de les énumérer. Si vous voulez regagner le respect des marchands de Terrilville, laissez les manigances politiques aux nouveaux marchands. Cessez de tremper dans le commerce d'êtres humains. Redevenez ce que vous étiez, et vos amis reviendront. Pas du jour au lendemain, car vous avez piétiné trop de plates-bandes, mais petit à petit. Vous êtes un premier marchand. Sitôt que vous vous en souviendrez, vos compatriotes s'en souviendront aussi.
Et en attendant, je devrais mourir de faim avec distinction,
explosa Davad. Comme pour parer à un sort si funeste, il prit un gros morceau de pain d'épices.
Vous ne mourrez pas de faim,
rétorqua Ronika, implacable.
Vous l'avez dit vous-même, vous n'avez personne à charge. Vous pourriez vivre de vos revenus si vous décidiez de vous y appliquer, même si vous n'aviez jamais fait d'autres affaires de votre vie. J'avancerai même que, si vous réduisiez le nombre de vos serviteurs, vous pourriez subvenir quasiment à tous vos besoins avec un potager, quelques poulets et un peu de bétail. Vous pourriez revenir à la simplicité, comme Kefria et moi avons été contraintes de le faire. Quant à votre sollicitude, allons. Si je me souviens bien, vous avez une grande nièce. Prenez contact avec elle si vous voulez un héritier. Cela pourrait vous réconcilier avec cette branche de la famille.
Oh, elle me déteste,
dit Davad en éliminant du même geste la suggestion et les miettes de gâteau tombées sur ses genoux.
Une remarque en l'air que j'ai faite à son mari quand il la courtisait. Elle me traite comme si j'avais la peste. C'est irréparable.
Il avala une gorgée de café.
En outre, vous me reprochez de tremper dans l'esclavage. N'est-ce pas à quoi s'occupe Kyle, avec la Vivacia à l'heure présente, une tournée de commerce d'esclaves?
Devant le regard assombri de Ronika, il changea brusquement de tactique.
Je vous en prie, Ronika, je ne vais pas m'attarder. Permettez-moi seulement d'être présent quand il arrivera. Présentez-moi simplement comme un ami de la famille. C'est tout ce que je vous demande. Aidez-moi à établir cette prise de contact. Je m'occuperai moi-même du reste.
Il la regarda d'un air suppliant. L'huile parfumée de ses cheveux avait laissé une traînée luisante sur son front. Il était pitoyable. C'était un vieil ami de la famille. Il faisait du trafic d'esclaves. Dori et lui s'étaient mariés une semaine après Ephron et elle. Ils avaient dansé à leur mariage respectif. Il ne manquerait pas de dire quelques paroles malheureuses à Reine. Elle était son dernier recours. Avec lui, cela risquait de tourner au désastre. Elle était encore en train de le contempler en silence quand Kefria pénétra dans la pièce.
« Davad !»
s'exclama-t-elle avec un sourire contraint. Horrifiée, elle écarquillait les yeux.
« Quelle surprise ! Je ne savais pas que vous étiez là !»
Davad se leva avec empressement et faillit renverser sa tasse de café. Il se précipita vers Kefria, lui prit la main et lança radieux.
« Eh bien, je sais que ce n'est pas très convenable, mais je n'ai pas pu résister. Comme Kyle est absent, j'ai pensé qu'il serait à propos d'avoir un homme dans la maison pour jauger un peu ce jeune homme qui s'imagine courtiser notre Malta. »
« En effet, »
répondit Kefria d'une petite voix.
Elle se tourna vers sa mère d'un air accusateur.
Ronika se raidit pour dire la vérité. D'une voix tranquille, elle déclara
« J'ai expliqué à Davad que c'était tout à fait déplacé. Plus tard, si les deux jeunes gens décident de se revoir, nous inviterons les amis de la famille. Le moment sera mieux choisi pour rencontrer Reine et sa famille. »«
Si vous le dites, » fit Davad accablé,
puisque c'est tout ce que vous proposez à votre plus ancien, votre plus fidèle ami Ronica Vestrit. Je reviendrai quand j'en serai prié, alors.
C'est trop tard, dit Kefria faiblement. C'est pour cela que je suis venu vous chercher, mère. Reyn et sa famille sont déjà là.
Ronica se leva d'un bond.
Sa famille? Ici? Dans le petit salon?
Je sais. Je ne les attendais pas non plus.
Et je n'attendais pas Reyn avant la fin de l'après-midi. Le navire a fait bonne marche. En tout cas, Yannirupros est là avec lui, ainsi que le frère aîné, Bendir. Dehors, il y a tout un équipage avec des paniers de cadeaux et... Mère, j'ai besoin de vous. Comment allons-nous faire? Nous manquons de personnel et...
C'est très simple,
intervint Davad. Et son attitude changea du tout au tout. De quémandeur, il devint maître.
Vous avez encore un garçon d'écurie. Envoyez-le-moi ici. Je vais griffonner un petit mot qu'il apportera chez moi, et en un rien de temps, mes gens seront là. Discrètement, bien sûr. Je leur donnerai des instructions strictes pour qu'ils se comportent comme s'ils étaient de la maison, et...
Et quand le bruit s'en répandra, comme il se doit quand les domestiques s'en mêlent, nous serons la risée de la ville. Non, Davad.
C'était au tour de Ronica de soupirer. J'accepte votre offre, j'y suis bien obligé. Mais si nous devons emprunter vos serviteurs, je n'hésiterai pas à l'avouer. Pas plus que pour épargner notre fierté, je ne tairai votre gentillesse dans cette affaire.
Se rappelant un peu tard que sa fille pouvait être d'un autre avis, Ronica se tourna vers Kefria.
« Tu es d'accord ? » demanda-t-elle abruptement.
Celle-ci secoua la tête, impuissante. « Puisque nous y sommes obligés, Malta ne va pas apprécier. » Elle avait ajouté cette dernière phrase presque pour elle-même.
« Ne troublez pas sa charmante petite tête avec ça !»
Davad était rayonnant à présent.
Ronica mourait d'envie de le frapper à coups de bâton.
Il poursuivit.
Je suis certain qu'elle sera beaucoup trop intéressée par son soupirant pour prêter attention à un vieil ami de la famille.
Bon, où est-il, ce papier, Ronica?
Je griffonne un billet, vous pouvez envoyer votre commis.
Malgré les appréhensions de Ronica, tout fut réglé promptement et sans heurts. Kefria retourna à ses hôtes, en leur assurant que sa mère les rejoignait sans tarder. Le billet fut envoyé. Davad voulut jeter un dernier coup d'œil dans un miroir. Sans savoir si elle était mue par la pitié qu'elle ressentait pour lui ou pour elle-même, Ronica le persuada d'essuyer l'huile de ses cheveux et de son front et de se repeigner de façon plus digne.
« Tant pis pour les choses qui pochaient aux genoux, c'était toujours ainsi, lui dit-il. »
Quant au manteau, il était neuf et la coupe en était, paraît-il, du dernier cri. Ronica se mordit la langue pour ne pas lui signaler la différence qu'il y avait entre « dernier cri » et « saillant ». Puis, avec une vive appréhension, elle fit son entrée dans le petit salon au bras de Davad. Elle avait entendu dire que la cour faite par un homme du désert des pluies était moins discrète que celle pratiquée à Terrilville. Avant que Kefria n'eût donné son accord, il avait été convenu que Reyn n'offrirait pas de cadeaux coûteux à Malta afin de ne pas lui tourner la tête. Ronica s'attendait à un bouquet de fleurs et à quelques friandises, peut-être. Elle imaginait qu'on lui présenterait un jeune homme timide, accompagné sans doute d'un tuteur ou d'un oncle. Le petit salon était transformé. Le simple bouquet printanier de fleurs du jardin que Kefria et elle avaient arrangé avait disparu. Une profusion de fleurs exotiques du désert des pluies s'épanouissait dans des corbeilles, des coupes et des vases. Leur parfum entêtant était aussi épais que la fumée. Des plats, des coupes de fruits, des bouteilles de vin, des plateaux de friandises et de pâtisseries avaient rejoint sur la table le repas soigné. Des oiseaux multicolores gazouillaient dans une cage de cuivre suspendue à un arbre artificiel en bronze et en merisier. Un petit chat moucheté, un chaton, rôdait avec espoir sous la cage. Des serviteurs, voilés ou non, se déplaçait silencieusement et avec diligence pour parachever la métamorphose de la pièce.
À l'entrée de Ronica, un jeune homme que son voile désignait comme un marchand du désert des pluies jouait une mélodie plaintive sur une harpe. Comme porté par la musique, Yanni Rouprous se leva majestueusement pour la saluer. Son voile de dentelle blanche chatoyait, semé de perles. L'ample capuchon qui lui couvrait les cheveux était ornée de pompons de soie tressés de toutes les nuances de bleu. Elle portait un corsage extravagant, tout en rubané, et des pantalons amples resserrés aux chevilles par des flots de rubans. Des broderies compliquées cachaient quasiment le fond de lin blanc. Ronica n'avait jamais vu pareil accoutrement, mais elle sut aussitôt que ce deviendrait la nouvelle mode à Terrilville. Tandis que Yanni la saluait dans le salon transformé, Ronica eut l'impression d'avoir été transportée par magie au désert des pluies, et que c'était elle la visiteuse dans la maison des Rouprous. Le sourire de Yanni était chaleureux, et seul un rapide coup d'œil trahit sa curiosité à l'endroit de Davad.
« Je suis ravi que vous soyez venu vous joindre à nous, » dit-elle.
Avec une familiarité déconcertante, elle prit les mains de Ronica et se pencha pour murmurer
« Vous devez être fière de votre fille Kefria. Elle nous a accueillis avec tant de chaleur et de grâce. Elle fait honneur à son éducation. Et Malta, ah, je comprends maintenant pourquoi mon fils s'était pris d'elle si rapidement, si profondément. Elle est jeune, vous m'aviez prévenu, mais... elle s'épanouit déjà comme une fleur. Quel jeune homme ne tomberait pas sous le charme de ces yeux-là? Il n'est pas étonnant qu'il ait pris tant de soin à choisir les cadeaux qu'il lui apporterait. J'avoue que ces masses de fleurs semblent un peu étouffantes, mais vous pardonnerez certainement l'impétuosité d'un jeune homme.
Surtout quand il est trop tard pour y remédier, répondit Davad, tandis que Ronica forgeait encore une réponse. Il fit un pas pour poser sa main sur celle de Ronica et Yanni. « Bienvenue chez les Vestrites. Je suis Davad Restart, un ami de la famille depuis toujours. Nous sommes absolument ravis de vous avoir ici et profondément honorés par la cour que Reyn fait à notre Malta.
N'ont-ils pas l'air charmants tous les deux ?»
Ces paroles correspondaient si peu à ce que Ronica aurait voulu dire qu'elle faillit perdre toute maîtrise de soi. Yanni dévisagea Davad, puis son hôtesse, et se dégagea doucement de l'étreinte du marchand d'un geste plein de tact, mais sans ambiguïté.
« Je me souviens bien de vous, marchand Restart. »
Le ton était froid. À l'évidence, le souvenir qu'elle gardait de lui n'était pas des meilleurs. La subtilité échappa à Davad.
« J'en suis ravi et honoré !»
s'exclama-t-il avec un sourire rayonnant. Il croyait manifestement que tout allait pour le mieux. Ronica savait qu'elle devait dire quelque chose, mais elle était absolument incapable de trouver des mots sensés. Elle se rabattit sur des banalités.
« Des fleurs ravissantes. Seul le désert des pluies recèle des couleurs et des parfums aussi extraordinaires. »
Yanni remua très légèrement, mais suffisamment pour faire face à Ronica et présenter son épaule à Davad en l'excluant.
« Je suis contente qu'elle vous plaise. Je craignais que vous ne me réprimandiez pour avoir laissé Reyn céder à cette prodigalité. Nous étions convenus qu'il serait modeste dans ses cadeaux, je sais bien. »
À dire vrai, Ronica avait bien l'impression que Yanni avait outrepassé les termes de leur accord. Avant qu'elle ait pu trouver un moyen délicat de lui faire savoir que Reyn devait s'en tenir là, Davad la devança.
« Modeste ? Quelle place tient la modestie dans la passion d'un jeune homme ? Si j'étais jeune et que je courtise une jeune fille comme Malta, moi aussi je tâcherais de la couvrir de cadeaux. »
Ronica retrouva enfin sa langue.
« Mais je suis certaine qu'un jeune homme comme Reyn voudrait être estimé pour lui-même et non pour ses présents. Pareil est à l'âge et digne de leur première présentation, mais je suis sûr que par la suite il se montrera plus réservé. » En s'adressant à Davad plutôt qu'à Yanni, Ronika espérait éviter d'offenser tout en faisant connaître son opinion.
« Sottise !» renchérit Davad. « Regardez-les. Est-ce qu'elle vous paraît vouloir qu'ils soient réservés ?»
Malta trônait littéralement parmi les fleurs. Elle était assise dans un fauteuil, avec un grand bouquet sur les genoux. Des pots et des vases remplis de plantes et de feuillages avaient été placés autour d'elle. Une fleur rouge était piquée à l'épaule de sa simple robe blanche, une autre ornait ses cheveux relevés, rehaussant les tons chauds de sa carnation et le lustre de ses cheveux noirs. Les yeux baissés, elle parlait tout bas au jeune homme qui se tenait attentif à ses côtés. De temps à autre, elle le regardait à travers ses cils. Ce faisant, sa bouche s'arrondissait en un petit sourire de chat. Reine Hoprous était tout de bleu vêtu. Un manteau azur était jeté sur un fauteuil voisin. Sa tenue traditionnelle du désert des pluies, pantalon ample et chemise à longues manches, dissimulait efficacement toute difformité au simple observateur. Il avait souligné avec fierté sa taille bien prise d'une large ceinture de soie, d'une nuance plus soutenue que le reste. Des bottes noires dépassaient des revers lâches des pantalons. Le dos de ses gants noirs, cloutés de gemmes flamboyantes, témoignait avec désinvolture d'une extraordinaire richesse. Son capuchon uni était de même soie que la ceinture, tandis que le voile de dentelle noire cachait ses traits. Bien qu'on ne pût distinguer son visage, on devinait son attention fascinée à l'inclinaison de sa tête.
« Malta est très jeune !» dit Ronika précipitamment avant que quiconque ait pu faire de commentaires. « Elle n'est pas assez avisée pour savoir quand il faut aller lentement. Il nous appartient, à sa mère et à moi-même, d'user de prudence. Yanni et moi sommes convenus que, pour leur bien, ces jeunes gens ne doivent pas être autorisés à se montrer trop impulsifs.
« Allons, je ne vois pas pourquoi !»
la contredit Davad avec jovialité.
« Il ne peut en sortir que du bien. Malta doit bien finir par se marier. Pourquoi contrarier une idylle? Pensez un peu à ce qu'il peut en résulter. Des petits-enfants pour Yanni, des arrière-petits-enfants pour vous, Ronika, et des arrangements commerciaux profitables pour tous, je n'en doute pas. »
Ronika était au supplice de voir Davad tirer si laborieusement la conversation dans la direction qu'il souhaitait. Avec les années, elle en était venue à bien connaître l'homme. C'est pourquoi il se trouvait là, maintenant. Il était un vieil ami de la famille. Il se souciait sincèrement de Malta et de son avenir. Mais son cœur, pour la plus grande part, avait depuis longtemps cédé le pas devant l'intérêt et le profit. Pour le meilleur ou pour le pire, l'esprit de Davad fonctionnait ainsi. S'il n'avait jamais hésité à utiliser ses relations pour faire avancer ses affaires, en revanche, il sacrifiait rarement l'espoir d'un gain pour conserver une amitié. Tout ceci traversa l'esprit de Ronika en un éclair. Elle voyait Davad avec lucidité, telle qu'elle l'avait toujours connu. Mais elle n'avait jamais évalué les implications qu'une amitié de ce genre comportait. Malgré des divergences d'opinion, elle ne l'avait pas écarté, même lorsque bon nombre de marchands cessèrent toute relation avec lui. Il n'était pas foncièrement mauvais. Simplement, il ne réfléchissait guère à ce qu'il faisait. Qu'un profit lui fascine, et il suivait, il s'engageait dans le commerce des esclaves, dans les pratiques douteuses des nouveaux marchands. Il désirait même tirer avantage de la cour faite à Malta. Il n'y voyait aucun mal. Il ne tenait pas compte du bien et du mal. Ce qui ne le rendait pas pour autant inoffensif. Il pouvait par inadvertance nuire à la famille Vestrit s'il indisposait Yanni. La famille Hoprous détenait la reconnaissance de dette de la Vivacia. Ronika avait accepté à contre-cœur les visites de Reine à Malta, persuadée qu'il se rendrait compte rapidement qu'elle était trop jeune et qu'elle n'était pas faite pour lui. S'il commençait sa cour puis l'interrompait, cela procurait à Ronica un singulier avantage. La famille Vestrit pourrait s'estimer offensée. On attendrait des Rouprous qu'ils se montrent plus que corrects dans leurs affaires. Mais si les Rouprous rompaient à cause des relations politiques indésirables des Vestrit, l'attitude des autres marchands pouvait s'en trouver considérablement modifiée. Ronica avait déjà senti la pression qu'on avait exercée sur elle afin qu'elle cessât tout rapport avec Davad Restart. Elle se retrouverait dans un bourbier financier si cette pression s'étendait au domaine des affaires. Le plus sage serait de se débarrasser de Davad Restart. Mais la loyauté l'interdisait, ainsi que l'orgueil. Si les Vestrit se laissaient mener par l'opinion d'autrui, ils perdraient toute maîtrise de leur destin. Encore que ce destin, ils ne le maîtrisaient plus guère. Le silence était devenu embarrassant. Ronica se sentait comme fascinée, paralysée par une résignation mêlée d'horreur. Qu'allait-elle encore trouver à dire? Il était parfaitement inconscient de sa gaucherie. Tout sourire, il commença. « À propos d'alliance commerciale !» Le salut vint d'un côté inattendu. Kefria s'avança majestueusement vers eux. De fines gouttelettes de sueur voilaient son front, seul signe visible de la nervosité à laquelle elle était sans doute en proie en voyant Davad s'éterniser ainsi auprès de Yannir Rouprous. Elle lui effleura le bras et lui demanda à mi-voix s'il voulait bien l'aider à la cuisine pour un instant. Les serviteurs avaient du mal à déboucher les bouteilles de vin qu'elle avait sorties. Pouvait-il venir surveiller les opérations? Kefria avait bien choisi. Le vin et son service dans les règles de l'art étaient une des manies favorites de Davad. Il s'empressa, Kefria sur ses talons, tout en discourant doctement avec force hochement de tête sur la façon de déboucher une bouteille sans trop l'agiter. Ronica soupira de soulagement.
Je m'étonne que vous tolériez sa présence, fit remarquer Yanni à mi-voix.
Maintenant que Davad était parti, elle se tenait près de Ronica. Elle lui parlait sur le ton de la confidence, au milieu de la musique et du brouhaha des conversations.
L'autre jour, j'ai entendu qu'on le surnommait le marchand félon. Il a beau nier, tout le monde sait qu'il a été l'intermédiaire des nouveaux marchands dans nombre de leurs affaires sordides. On dit même qu'il serait à l'origine des offres ridicules de rachat du Parangon.
« Des offres grotesques et ridicules, » approuva Ronica à voix basse.
« Je trouve scandaleux que les Lutchans acceptent même qu'on les leur soumette. »
Elle risqua un petit sourire. Pour être sûre d'être parfaitement comprise, elle ajouta le vieil adage marchand.
« Après tout, il faut être deux pour faire affaire. »
« En effet, » acquiesça Yanni avec froideur. « Mais n'est-ce pas cruel de la part de Davad de tenter les Lutchans avec des propositions pareilles? Il sait bien qu'ils sont dans la gêne. »
La plupart des marchands de Terrilville commencent à se priver ces derniers temps, y compris les Vestrit. Alors nous formons des alliances dont certaines peuvent paraître étranges à des tiers. Davad, par exemple, est venu aujourd'hui me proposer ses serviteurs car il sait bien que nous avons réduit notre personnel au strict minimum.
Voilà, c'était dit. Si Rain faisait sa cour en comptant à tort sur une fortune que les Vestrit ne possédaient plus, tout ceci prendrait rapidement fin. Mais Ronica découvrit par la réponse de Yanni qu'elle avait méjugé de la bienveillance de sa visiteuse.
« Moi aussi, je suis au courant de vos ennuis financiers. Et je suis ravi de constater que Rain courtise une jeune femme accoutumée à vivre selon ses moyens. L'économie et la discipline sont des vertus, quelle que soit la fortune. Il n'était pas dans nos intentions de vous embarrasser en amenant nos serviteurs, mais nous pensions vous libérer ainsi de tout souci pour mieux profiter du temps passé ensemble, » dit-elle avec sincérité.
Davad est parfois difficile, répondit Ronika. Je pourrais l'abandonner. Cependant, je n'en ai jamais vu l'avantage. Je ne respecte pas les gens qui rejettent les enfants ou les parents qui leur déplaisent. Il me paraît que la famille se doit d'essayer sans cesse de corriger quoi qu'il en coûte. Pourquoi serait-il différent avec de vieux amis? Surtout que, à bien des égards, nous sommes devenus la famille de Davad. Il a perdu sa femme et ses fils dans la peste sanguine, comme vous le savez peut-être. La réponse de Yanni prit Ronika au dépourvu.
Alors, vous n'avez pas chassé Althea de chez vous parce qu'elle se conduisait mal?
Ronika en resta abasourdie. Était-ce donc le bruit qui courait à Terrilville et qui s'était répandu jusqu'au désert des pluies?
Elle fut reconnaissante au domestique qui leur présenta soudain un plateau de gâteaux.
Était-ce vraiment la nuit dernière que Kefria et elle les avaient confectionnés?
Elle en prit un, on lui tendit aussitôt une flûte de liqueur du désert des pluies. Elle accepta en remerciant et en avalant une gorgée.
« C'est délicieux !» fit-elle avec un plaisir sincère.
« Tout comme les gâteaux !» renchérit Yanni. Elle reporta son regard sur les deux jeunes gens.
Malta venait de dire à Rain quelque chose qui le fit rire. L'inclinaison de tête de Yanni laissait deviner qu'elle souriait aussi.
Ronika hésita à abandonner le sujet, puis s'arma de courage.
Il valait mieux étouffer les rumeurs dès qu'on en prenait connaissance. Ça seul savait depuis combien de temps le bruit circulait, probablement depuis l'été dernier.
« Je n'ai pas demandé à Althea de quitter la maison. En réalité, elle s'en est allée contre ma volonté. Le partage à la mort de son père l'a bouleversée. Elle s'attendait à hériter de la Vivacia. Elle a été blessée et elle désapprouvait absolument la décision de Kyle quant à l'utilisation du navire. Il y a eu une querelle et elle est partie. »
Malgré qu'elle en eût, elle regarda résolument le voile de Yanni et ajouta
« Je ne sais pas du tout où elle se trouve maintenant, ni ce qu'elle fait. Si elle se montrait à la porte à 7 minutes, je l'accueillerais à bras ouverts. »
Yanni parut lui rendre son regard.
« C'est une question embarrassante, peut-être, mais je suis fait ainsi. Je parle sans détour. Je n'ai aucune intention de vous offenser. Et il m'a toujours semblé que les paroles honnêtes laissaient moins de marge aux malentendus.
Je suis tout à fait de cet avis. » Ronika suivit le regard de Yanni dirigé vers les jeunes gens. Malta avait baissé la tête et détourné les yeux. Ses joues étaient empourprées, mais elle paraissait gaie. À l'inclinaison de sa tête, on devinait que Rain partageait son amusement tout en essayant de lire sur le visage détourné.
« Dans une famille, il n'y a pas de place pour les secrets, » ajouta Yanni.
C'était merveilleux, bien plus merveilleux que tout ce que Malta avait pu imaginer. Ainsi, c'était cela. Être traitée comme il convenait. Toute sa vie, elle avait été privée. Elle pouvait désormais se rassasier de sensations exquises. Les fleurs embaumées autour d'elle, toutes sortes de mets délicats et de boissons délicieuses lui avaient été offertes, et Rain lui-même n'aurait pu se montrer plus attentionné. Rien ne manquait à cette journée, sauf peut-être la présence de quelques-uns de ses amis qui l'auraient enviée.
Elle se plut à imaginer la scène. Delo et Chaton et Carissa et Polia seraient assises là-bas et à chaque fois qu'on lui présenterait un plateau, elle se servirait et ferait apporter le reste à ses amis. Plus tard, elle se serait excusée d'avoir eu si peu de temps à leur consacrer. Quelle honte que Rain les monopolisait, mais on sait bien comment sont les hommes. Et elle leur aurait souri d'un air entendu.
Puis elle aurait répété quelques-uns des compliments dont il l'avait abreuvé, ou quelques traits d'esprit.
« Puis-je vous demander ce qui vous fait sourire ? »
sans qui règne avec douceur. Il se tenait à distance respectueuse de son fauteuil. Il avait refusé de s'asseoir. Elle leva les yeux vers la figure voilée. Son joli rêve se gâta. Qui savait quel visage lui souriait derrière ce voile? Elle sentit un petit frisson lui serrer l'estomac. Mais elle se garda de trahir son malaise et répondit d'une voix musicale.
« Eh bien, je songeais combien il aurait été agréable que mes amis soient là pour partager tout cela avec nous. »
Et elle fit un geste gracieux pour indiquer le salon en fête. « Moi, je pensais le contraire, » répliqua-t-il. Il avait une voix plaisante, distinguée, grave et virile. Son voile frémit légèrement sous son haleine.
« Le contraire ?»
s'étonna-t-elle en levant un sourcil. Il ne bougea pas mais baissa le ton. « Je pensais combien ce serait agréable qu'on se voie seul à seul quand j'aurais gagné votre confiance. » Elle ne pouvait se fier qu'à son attitude et à sa voix. Il n'y avait ni sourcils levés, ni sourire timide pour accompagner ses paroles. Elle s'était déjà entretenue avec des hommes, elle avait même flirté en l'absence de sa mère ou de sa grand-mère. Mais aucun ne s'était montré aussi direct avec elle. C'était à la fois grisant et intimidant. Tandis qu'elle hésitait, elle se sentait dévisagée. Elle avait beau faire attention, elle ne pouvait rester impassible. Comment faire des coquetteries et sourire à quelqu'un qui est peut-être un monstre grotesque? À cette idée, elle mit dans ses paroles un soupçon de froideur.
Il faut d'abord décider si nos relations doivent commencer. N'est-ce pas le but de cette première rencontre? Voir si nous sommes faits l'un pour l'autre?
Il eut un petit rire amusé.
Mademoiselle Malta, laissons ce divertissement à nos mères. C'est leur jeu.
Voyez comme elles se tournent mutuellement autour telles des lutteurs à l'affût d'une ouverture du moindre déséquilibre de l'adversaire. Elles vont conclure l'affaire qui nous réunit. Et je ne doute pas que nos deux familles en tirent avantage à tous égards.
Il inclina très légèrement sa tête encapuchonnée vers Yanni Rouprous et Ronica Westrit. Leurs expressions étaient plaisantes et circonspectes, mais on y sentait une vigilance en suspens. Signe qu'elles étaient engagées dans une joute verbale.
Ce n'est pas ma mère, c'est ma grand-mère, fit remarquer Malta. Et je ne comprends pas pourquoi vous qualifiez cette rencontre de jeu. C'est très sérieux, au contraire. Du moins pour moi. Vous jugez cela banal?
Je ne trouverai jamais banal un moment passé en votre présence. De cela, vous pouvez être assuré.
Il garda un instant le silence, puis il se livra dans un flot de paroles.
« Depuis le moment où vous avez ouvert le coffre à rêves et que nous nous sommes aventurés tous deux dans votre monde imaginaire, j'ai su que rien ne pourrait me dissuader de vous courtiser. Votre famille a cherché à me décourager en disant que vous n'étiez encore qu'une enfant. J'ai trouvé cela risible. C'est le jeu dont je parlais, le jeu auquel jouent toutes les familles quand leur progéniture désire se marier. On inventera des obstacles qui se dissiperont quand on pèsera les avantages commerciaux et les cadeaux. Mais cette conversation est trop brutale pour nous. Il s'agit de la bourse et non du cœur. Rien n'est dit sur ma faim de vous. »
Les mots se précipitaient sans qu'il pût les retenir. « Malta, j'ai le mal de vous. Je brûle du désir de vous posséder, de partager avec vous tous les secrets de mon cœur. » Plus vite ma mère se rendra aux exigences de votre famille, mieux ce sera. Dites-le à votre grand-mère. Dites-lui qu'elle peut demander ce qu'elle veut, et je m'assurerai que les Westrit l'obtiennent du moment que je vous sers bientôt dans mes bras. »
Malta, le souffle court, eut un mouvement de recul.
Son trouble n'était pas fin, mais Rayne se méprit sur sa source. Il fit un pas en arrière et inclina gravement la tête.
« De grâce, pardonnez-moi. » dit-il d'une voix rauque. Je suis affligé d'une langue qui prononce les paroles de mon cœur avant que ma raison n'intervienne. Comme je dois vous paraître grossier, comme une bête haletant après vous. Je vous le jure, il n'en est rien. Depuis que je vous ai vu à cette soirée des marchands, j'ai pris conscience que j'avais une âme. Avant cela, je n'étais guère qu'un instrument intelligent au service de ma famille, faisant de mon mieux pour accroître sa fortune. Quand mon frère ou mes sœurs parlaient d'attirance ou de passion, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. » Il s'interrompit pour reprendre haleine, laissa échapper un léger rire. « Si vous connaissiez un tant soit peu le peuple du désert des pluies, vous sauriez que nous sommes précoces et que nous nous marions jeunes. Selon les coutumes de mon peuple, j'ai toujours été un drôle d'oiseau. D'aucuns disent que j'ai été envoûté très tôt par mon travail et que je ne connaîtrai jamais le grand amour. » Il eut un petit ricanement de dédain. Il secoua la tête et poursuivit. D'autres murmuraient que j'étais un eunuque, incapable d'éprouver des passions viriles. Leurs paroles ne m'affectaient pas. Je savais que j'avais un cœur, mais il était endormi, et je ne ressentais pas le besoin de le voir s'éveiller. Dans les runes que je traçais et déchiffrais, dans les étranges mécanismes que je démantelais, je croyais avoir suffisamment de quoi m'occuper l'esprit. J'étais agacé que ma mère insiste pour que je l'accompagne à cette réunion à Terrilleville. Agacé. Tout cela a été balayé d'un coup, à la minute où j'ai osé vous adresser la parole. Comme la jidzine s'allume à un simple contact, ainsi votre voix a éveillé mon cœur au désir passionné. Un espoir fou, puéril, m'a poussé à vous laisser le coffre à rêve. J'étais certain que vous ne l'ouvririez pas, certain que vous rejetteriez mon rêve avant même que j'aie pu le lancer vers vous. Mais non, vous avez fait s'éclore mon âme et partagé avec moi une vision enchantée. Vous avez marché dans ma cité et votre présence l'a ranimée. J'ai toujours cru que cette cité froide et silencieuse était mon cœur. Vous pouvez imaginer ce que cela a signifié pour moi. » Malta n'écoutait ce discours passionné que d'une oreille. Ses pensées et son cœur était plein de ce qu'il avait dit précédemment. Quoi qu'elle demande, il veillerait à ce que sa famille le lui cède. Quoi qu'elle demande ! Son cerveau allait dans tous les sens, comme un poisson affolé. Elle ne pouvait exiger trop sans paraître avide. Cela risquait de le faire revenir de sa passion. Mais elle ne pouvait non plus réclamer trop peu sans paraître stupide ou mésestimée par sa famille. Non, il y avait un juste milieu et il fallait mûrement y réfléchir. Aussitôt, elle choisit ce qu'elle considérait comme le marché le plus avisé. Ah, si seulement son père était là, il veillerait qu'elle utilise la passion de Reine pour son plus grand profit. Elle comprit alors en un instant ce qu'elle avait à faire. Retarder les négociations jusqu'au retour de son père.
« Vous êtes bien silencieuse, » fit observer Reine d'une voix assagie. « Je vous ai offensée. »
Elle avança un pion pour prendre l'avantage. Il devait croire sa position incertaine, mais non désespérée. Elle affecta un sourire timoré.
« Je ne suis pas habituée, c'est-à-dire, on ne m'a jamais parlé de la sorte. »
Elle laissa sa voix s'éteindre, puis prit une inspiration, comme pour se calmer.
« Mon cœur bat si vite. Parfois, quand j'ai peur, je deviens... Pourriez-vous m'apporter un verre de vin ?»
Elle leva les mains et se tapota les joues, comme si elle s'efforçait de se ressaisir. Après le rêve qu'ils avaient partagé, pouvait-elle lui faire croire qu'il l'avait troublée avec un discours si franc ? Assurément. L'affaissement de ses épaules trahissait une sorte de panique contenue, tandis qu'il se détournait précipitamment. Il saisit un verre et le remplit avec tant d'empressement qu'il faillit le renverser. Quand il la rejoint, elle se recula légèrement, comme si elle craignait d'effleurer sa main. Il ne put retenir un petit soupir consterné, et elle eut un sourire forcé et tremblé. Feignant de rassembler tout son courage, elle lui prit le verre des mains et le porta à ses lèvres pour en boire délicatement une gorgée. C'était un excellent cru. Elle baissa le verre et soupira.
« Voilà qui est mieux. Merci beaucoup. »
« Comment pouvez-vous me remercier, alors que c'est moi qui suis cause de votre trouble ?» Elle arrondit les yeux et leva la tête.
« Oh, mais non, c'est ma faute !»
dit-elle avec fourberie.
« Comme je dois vous paraître sotte de me mettre à trembler à de simples paroles. Ma mère m'avait bien dit qu'il me restait encore beaucoup à apprendre pour être une femme. Cela fait partie de l'apprentissage, j'imagine, »
ajouta-t-elle avec un petit geste désignant le salon.
« Comme vous pouvez le constater, nous menons une vie tranquille ici. J'ai été plus protégée que je ne le croyais. Je comprends bien la nécessité pour ma famille de vivre simplement selon ses moyens. Cependant, cette vie m'a privée de bien des expériences. »
Elle avoua, avec un léger haussement d'épaule,
« Je suis si ignorante des manières des jeunes gens. »
Elle croisa les mains sur ses genoux et baissa les yeux en ajoutant humblement
« Je dois vous demander d'être patient, je le crains. »
Et avec un dernier regard à travers ses cils,
« J'espère que vous ne me trouverez pas sotte ou ennuyeuse, que vous ne vous lasserez pas de m'instruire de ces choses-là et que vous ne renoncerez pas en pensant que je suis simple d'esprit. Je regrette presque de n'avoir pas eu d'autres prétendants, car j'en saurais davantage aujourd'hui sur les relations entre hommes et femmes. »
Elle soupira, le front incliné, retint son souffle, comptant que l'effort ferait rougir ses joues, puis murmura hors d'haleine
« Je l'avoue, je n'ai quasiment rien compris à mon propre rêve, la nuit où j'ai ouvert le coffre. »
Yeux toujours baissés, elle implora de façon charmante
« Pouvez-vous m'apprendre ce que signifie tout cela ?»
Elle n'avait nul besoin de voir son visage. Elle n'avait même pas besoin de lever la tête. Elle sut qu'elle l'avait complètement subjugué quand il répondit « Il n'y a rien au monde que je préférerais à être votre précepteur dans ce domaine. »